Sud Radio, Berkoff dans tous ses états. Midi 13h, André Berkoff.
Et la France qui continue à être dans tous ses états, elle aussi, et plus que jamais. Et nous avons reçu une lettre. Eh bien, nous aimons recevoir des correspondances à Sud Radio comme ailleurs. Le président nous parle. Qu'a-t-il à nous dire? Les Gilets jaunes nous ont encore parlé samedi. Ont-ils encore quelque chose à nous dire? Et enfin, nous allons écouter un économiste brillantissime qui, lui, a beaucoup de choses à nous dire.
Ici Sud Radio. Les Français parlent aux Français. Les carottes sont cuites. Les carottes sont cuites.
Sud Radio, Berkoff dans tous ses états.
Je rappelle aux auditeurs de Sud Radio que les carottes sont cuites et tout cela, c'était effectivement les slogans que lançaient, les messages que lançait Radio Londres entre 40 et 44 à l'intention des Français de l'intérieur, des résistants et autres. Les carottes sont cuites, eh ben non, 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 non. Écoutez, ce qui se passe aujourd'hui, c'est, on a vu l'acte 9, samedi, on va en parler. On a vu également ce qui s'est passé un peu partout et qui va continuer pour le meilleur et pour le pire, on le saura.
Berkoff dans tous ses états, le fait du jour.
Gilets jaunes, moi gilets jaunes, demain les gilets jaunes, faut danser le petit. Gilets jaunes, moi gilets jaunes, demain les gilets jaunes.
Ouais, bon petit rap sur les gilets jaunes, comme vous savez, il y a eu des centaines et des centaines de chansons improvisées, de rap improvisées sur les gilets jaunes. Alors que dire? On en parle tout le temps, du matin au soir, du soir au matin. Que dire? D'abord, un certain nombre de petits faits quand même qu'il faudrait et qu'il est urgent de rappeler. D'abord, beaucoup de gens avaient dit, ça y est, ça s'essouffle, c'est fini, quelques-uns dans les ronds-points, c'est fini. Et on a vu que la manifestation, alors les chiffres, évidemment c'est toujours, vous savez, avant c'était quelques milliers selon la police, tant de milliers selon les syndicats. Aujourd'hui, c'est toujours quelques milliers, 85 000 par le ministère de l'Intérieur. D'ailleurs, c'était 50 000 par le même ministère de l'Intérieur samedi dernier, 84 000 aujourd'hui. Les policiers en colère vous disent non, ils étaient plus de 300 000. On n'a pas des chiffres exacts, bien sûr, chacun plaide pour sa chapelle. Il n'empêche que le mouvement a été relancé. Alors, on ne va pas dire pourquoi. Enfin, il y a beaucoup de choses qui ont joué. Certaines déclarations intempestives, il faut le dire, de Benjamin Griveaux, porte-parole du gouvernement, sur ce qui reste encore, ce sont des factieux qui veulent renverser le gouvernement, la République, etc. Il faut arrêter avec cette logomachie. Et puis l'autre, qui a été quand même plus grave, il faut le dire, quand M. Castaner dit qu'il y a de la casse dans les manifestations, et c'est évidemment vrai, mais que toutes les personnes, il l'a dit justement la veille, toutes les personnes qui participent aux manifestations sont aussi responsables. Et quelqu'un l'a dit, et de façon très très claire, c'est illégal ce que vous dites là, Monsieur le ministre de l'Intérieur, parce que la liberté de manifestation, elle est entière. Et ce n'est pas parce qu'on va à une manifestation et qu'il y aura des casseurs que nous sommes responsables de la manifestation. C'est vrai pour toute manifestation. Sinon, il aurait fallu interdire toutes les manifestations syndicales. Ne parlons pas des années 95, ne parlons pas des années 2005, etc., etc. Donc, il y a eu des choses qui jouent, et je vais vous dire sur le fond. Sur le fond, ce qui est déplorable et très embêtant, c'est que la fracture est actée. Il y a une véritable fracture aujourd'hui entre deux France ou trois France. La France du pouvoir, la France mondialisée, la France qui produit, et cette France, encore une fois, périphérique, oubliée, qui produit également, mais qui se sent complètement lâchée, et qui se sent aussi lâchée sur le plan du pouvoir d'achat, sur le plan des impôts, etc., etc., etc. Alors, on va parler de la lettre du président un peu plus tard, mais je voudrais rappeler quelque chose qui est extrêmement, je veux dire, on ne comprendra rien à ce qui se passe si on ne comprend pas qu'aujourd'hui, eh bien, la parole des politiques, des syndicats, et même d'un certain nombre de médias, ne passe plus. Je ne dis pas que les gens ont raison que ne de plus écouter, mais ils n'écoutent plus, un certain nombre de millions de Français n'écoutent plus la parole officielle, ni même une certaine parole médiatique. Il faut se poser, nous journalistes, nous, la question. Non pas se battre la coulpe, loin de là, mais se poser la question à l'heure où, justement, ce qui est totalement inadmissible, des journalistes sont agressés dans les manifestations, c'est inadmissible. D'ailleurs, quiconque se fait agresser, c'est inadmissible. Je ne revois pas dos à dos les violences policières et les violences des gilets jaunes. Je dis que toute violence est inadmissible. Et qu'il faut comprendre une chose, et c'est notre responsabilité, que nous avons à parler des agressions, nous avons à dénoncer les agressions, mais nous avons aussi à dénoncer les agressions comme en voie de certains, je dis bien, policiers ou CRS ou gendarmes mobiles qui ont perdu le sens de la mesure avec leur flashball et leur coup de matraque. Il faut être juste et précis, il faut non pas faire une comptabilité imbécile et atroce, mais il faut ne oublier personne quand on parle de victimes, on ne choisit pas ses victimes, on ne choisit pas ses bourreaux, mais on dénonce les bourreaux et on défend les victimes de quelque bord qu'ils soient. C'est fondamental, sinon on parle de n'importe quoi.
Cela étant dit, André Bercoff, d'ailleurs il y a eu une première pour cet acte 9 samedi. La manifestation des Gilets jaunes à Paris était encadrée pour la première fois par un service d'ordre de Gilets jaunes. Est-ce que c'est quelque chose qu'il faut encourager à mettre en place à peu près dans toute la France, à Toulouse, à Bordeaux, dans les autres manifestations où il y a eu encore...
Oui, vous avez tout à fait... Je crois que oui, et il est évident. Dans toute manifestation, vous avez des gens qui vont se livrer à des débordements. Et je crois que les Gilets jaunes s'organisent, et c'est une preuve encore plus de l'organisation, enfin supplémentaire. Il est évident qu'il vaut mieux qu'ils s'organisent et qu'il y ait un service d'ordre qui puisse effectivement empêcher un certain nombre d'agressions imbéciles comme celle des journalistes. Parce que je voudrais juste te dire une chose, parce que nous sommes un média, nous sommes effectivement vecteurs et transmetteurs d'informations, d'opinions, etc. C'est qu'il faut dire aux Gilets jaunes, et je crois que certains ne l'ont pas compris, qu'il ne faut pas confondre les journalistes du terrain, il ne faut pas confondre les journalistes qui sont sur le terrain, qui sont en train de... Excusez-moi.
Alors, c'est pas grave, vous avez un appel, André Bercoff, ça arrive à tout le monde.
Il ne faut pas confondre certains journalistes, vous disiez. Effectivement, certains journalistes, excusez-moi pour un téléphone intempestif, des journalistes sur le terrain qui font leur boulot, et puis un certain nombre de gens, dits experts, dits sachants, dits autres, qui disent des choses... sur les plateaux de télévision ou de radio,
faire la différence.
Qui n'ont rien vu.
Vous appelez à faire la différence entre un éditorialiste qui donne son avis sur un plateau télé ou sur un plateau de radio et un journaliste sur le terrain. Bon, après, on imagine bien aussi que quoi que dise l'éditorialiste ou l'homme politique, il ne mériterait pas non plus d'être agressé dans une manifestation.
L'éditorialiste est beaucoup moins agressé que le journaliste sur le terrain parce que l'éditorialiste n'est pas sur le terrain. Voilà. Il faut le dire. Donc, ça ne veut pas dire qu'il faut condamner. Il y a beaucoup d'éditorialistes qui font très bien leur boulot, mais d'autres, je rappelle, tel ou tel propos visant à dire que les policiers utilisent leurs armes, etc.
C'était Luc Ferry, homme politique.
Donc, exactement, philosophe. Il faut quand même... Et donc, je peux comprendre, non pas accepter, non pas excuser, mais comprendre que certains gilets jaunes sur le terrain qui entendent à la radio des choses qui les indignent, ils peuvent les indigner à la radio ou à la télévision, confondent justement et s'en prennent à des journalistes sur le terrain qui, eux, ne sont absolument pas responsables des propos qu'on donne à leur direction ou autre. Donc voilà, il faut être très, 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 très précis là-dessus. Et encore une fois, constater une chose, c'est que tous ceux qui pensaient que ce mouvement, et ils étaient nombreux, y compris chez les sachants, y compris au gouvernement, y compris ailleurs, que ce mouvement allait s'effondrer, que c'était rien, que eux savaient ce qu'était le peuple, etc., eh bien, ça continue. Ça ne représente pas tout le peuple, ça représente une portion non négligeable de la population, et il faut en tenir compte, sinon on va vers des lendemains qui déchantent beaucoup.
Bercoff est dans tous ses états, on est ensemble jusqu'à 13h sur Sud Radio. Bercoff dans tous ses états, mais qui refuse et dénonce la violence. Appelez-nous au 0826-300-300 pour nous dire ce que vous avez pensé de cet acte 9 des Gilets jaunes qui a eu lieu un peu partout en France. On vous attend, on est ensemble jusqu'à 13h.
Sud Radio, André Bercoff.
Ça balance pas mal.
Bercoff, dans tous ses états, ça balance pas mal.
Monsieur le Président, je vous fais une lettre.
que vous lirez peut-être si vous avez le temps.
Oui, on va parler évidemment, ce n'est pas moi qui fais une lettre au président de la République, ça c'était Boris Vian. Avec le déserteur, c'était au temps de la guerre d'Algérie, vous voyez, d'autres guerres. Mais en attendant, je crois que nous avons un auditeur.
Non, nous avons surtout une invitée. Nous avons surtout une invitée qui est une élue, une maire, que vous aviez, à qui vous aviez proposé d'intervenir.
Oui, absolument, mais c'est un... Oui. Bonjour, on voulait parler de la lettre au président et on voulait surtout parler du grand débat. Sylvie Thomassin, bonjour, vous êtes maire PS de Bondy, bonjour, donc le grand débat est lancé, bonjour Sylvie Thomassin.
Sylvine Thomassin, pardon.
Oui. Le grand débat est lancé, enfin est en principe lancé, et le président de la République sera donc mercredi, 14 janvier dans l'heure, et il demande dans sa lettre dont on va reparler, il demande à tous les maires de participer activement à ce grand débat. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, madame le maire ?
Je crois que le président de la République veut faire le tour de France, en effet, pour rencontrer les maires. Il en avait 10 000 qu'il pouvait voir facilement au Congrès des maires de France au mois de novembre et on l'attend toujours. Alors, moi, je préférerais qu'il fasse le tour de France. D'ailleurs, pour rencontrer les Gilets jaunes, il a besoin d'être en prise directe avec la population. Nous, on a l'habitude on est des républicains, on aime notre pays et donc on a l'habitude d'être facilitateurs. De là à nous demander d'être organisateurs de grands débats, où les Français attendent ce gouvernement sur des sujets nationaux qui n'ont rien à voir avec les politiques de notre collectivité, là, moi, je dis, attention, je veux bien que les maires soient les pompiers de la République, ils n'ont pas forcément à être les pompiers des gouvernements.
C'est-à-dire, vous estimez, Sylvine Thomassin, qu'au fond, ce grand débat porte sur les grands sujets, ben, on en a parlé, hein, c'est vrai, pouvoir d'achat, impôts, même d'ailleurs, il ouvre la porte immigration, sécurité, tout ça, mais vous estimez que ce n'est pas à vous de relayer ça ? Parce que pourtant, c'est la prise de parole et les maires sont les mieux placés. D'ailleurs, vous avez vu, dans la cadre du CEVIPOF, vous restez la seule institution politique à être... les Français ont confiance en vous. Donc ce n'est pas aux maires de faire ça ?
Les maires peuvent être facilitateurs. Moi, si le préfet me demande de mettre des salles à disposition, une sono, même d'être là auprès de mes concitoyens qui viendraient débattre avec les représentants de l'État local, évidemment que je le ferai. Évidemment qu'on aidera la République. Mais qu'on ne s'y trompe pas. C'est un peu comme si l'État voulait aujourd'hui que les maires, qui sont en effet les élus préférés des Français et qui le restent, servent de caution à ce grand débat. Or, ce grand débat porte sur des sujets nationaux. Laissons le gouvernement être en phase directe avec nos concitoyens.
Mmh. Oui, vous estimez que le gouvernement ayant lancé ça, c'est à lui donc de le faire et pas au maire en tout cas. Effectivement, non. D'accueillir, mais pas de s'impliquer.
Mais tout à fait. L'État ne peut pas se faire, le gouvernement ne peut pas se refaire une sorte de virginité sur les corps intermédiaires qu'il n'a fait que mépriser depuis bientôt 2 ans. On sera aidant, comme d'habitude, mais on ne veut pas être le prétexte.
D'accord. Et juste un mot. À votre avis, alors vous êtes maire, mais vous êtes française, citoyenne, etc. Est-ce que vous pensez que ce débat-là, aujourd'hui, est-ce que, au fond, les Français peuvent s'en emparer et effectivement aller peut-être plus loin, parler de. Est-ce que ce n'est pas une bonne occasion pour parler aussi de leurs problèmes personnels, locaux ou autres, ou existentiels, au bon sens du terme ? Et est-ce que ce n'est pas quand même une bonne occasion de faire le cahier de doléances, ce fameux cahier de doléances dont on parle depuis très longtemps ? Et est-ce que ce n'est pas la bonne occasion de le faire là, mais vraiment
mais
à fond ?
Bien sûr, mais on l'a fait. On est plus de 5000 mairies, je crois, à avoir mis, comme chez moi à Bondy, à avoir mis des cahiers de doléances à disposition. Et moi, je me suis dit, après tout, mes concitoyens vont aussi peut-être me saisir sur des sujets locaux. Et je suis là pour l'entendre. Eh bien, écoutez, venez voir le mien en mairie de Bondy, mais c'est un peu pareil partout. On échange entre maires. Ça porte sur des sujets nationaux. Nos concitoyens parlent énormément de l'ISF. Et pour eux, c'est plus qu'un symbole. C'est un marqueur d'injustice que cet ISF. Et ils parlent de pouvoir d'achat, de transport, du niveau de leur retraite, de CSG, des sujets éminemment nationaux, dans lesquels nous, on n'a pas grand-chose à voir. Si ce n'est bien sûr que d'être à leur côté et d'être à leur côté des citoyens vis-à-vis du gouvernement.
Donc vous dites que c'est plus sur la fiscalité, l'État et les services publics, la transition écologique, c'est ce que dit Emmanuel Macron dans sa lettre, démocratie, citoyenneté, c'est ça qui les occupe.
ce sont des sujets nationaux qui les occupent. Et là-dessus, je crois que le président a besoin d'un face-à-face direct avec les Français. Et sans se servir du fauné des maires qu'il a méprisé longtemps et qui maintenant recouvre de la valeur à ses yeux. Tant mieux, mais nous, on sera à côté de nos concitoyens, à leur côté comme on a l'habitude tous les jours, à portée de baffe, mais aussi de bisous. On sera des citoyens parmi eux.
Bah écoutez, apparemment, en tout cas, vous méritez plus les bisous que les baffes à en voir les enquêtes. Merci, madame le maire.
Merci, Sylvine Thomassin. Je rappelle que vous êtes maire socialiste de la ville de Bondy.
Sud Radio, Berkov dans tous ses états. Lanceur d'alerte.
Ma petite guéquette, sorte ma baguette. Je pisse et je pète, en montant chez Guette. Moralité, oh oui, gaz, à tous les étages.
Et oui, c'est l'inénarrable, l'inénarrable Serge Gainsbourg. Mais écoutez, on a fait exprès, vous ne nous en doutez pas, de donner quelque chose qui est un peu facile et un peu coquin, mais c'est Gainsbourg. Mais il y a eu quelque chose de beaucoup, beaucoup, beaucoup plus grave. C'est évidemment le réseau de gaz à Paris, c'est évidemment l'incroyable et la violente explosion avec des morts et des blessés qui a eu lieu justement rue de Trévise. Rue de Trévise, on a vu ce que ça a été, on voit ce que ça a été terrible, explosion de gaz. Et justement, il y a eu, et je citerai nos confrères du Parisien, il y a eu un interview tout à fait étonnant d'un élu du 6e arrondissement, Alexandre Vesperini, qui a parlé, lui, de l'état de vétusté avancée du réseau de distribution de gaz à Paris. Je parle de Paris, mais ça peut être valable dans beaucoup, évidemment, d'autres villes. Vesperini, qui est donc élu, dit le réseau de gaz parisien est dans un état de vétusté avancée. Il a beaucoup vieilli et surtout, il est mal signalisé. Je n'incrimine pas les gaziers, mais ce réseau est constitué au début du XXe siècle, un boulet meurtrier. Il a rappelé d'autres effectivement, explosions, numéro 4 de la rue Bérite, dans le 6e arrondissement, de nombreux blessés. Il y a un vrai, vrai problème. Le réseau, dit-il, est dans un état catastrophique. Et franchement, il faut faire très, très attention parce que ça veut dire que ce genre de choses peut se renouveler. Voilà. Alors, GRDF, le Gaz de France, a répondu non, non, ce n'est pas vrai, ce n'est pas ça. Il y a quand même un problème grave. Et puis, il faut dire aussi, il faut rappeler que deux pompiers sont morts dans cette explosion de la rue de Trévise et qu'il faut rappeler qu'en 10 ans, 102 pompiers sont morts en service. Deux soldats du feu sont décédés samedi après une explosion due au gaz. 102 pompiers morts en service, c'est quand même très, 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 très grave. Et tout ce qu'on peut faire, effectivement, pour arranger ça est le mieux. Et s'il s'agit de revoir ce qui se passe dans le réseau du gaz à Paris et ailleurs, eh bien, faites-le. Ça, c'est beaucoup plus important, peut-être, que la lettre.
Allez, restez avec nous sur Sud Radio. On se retrouve dans quelques instants avec Berkov dans tous ses états. Continuez à nous appeler au 0826 300 300. On va parler d'autres sujets, notamment, tiens, une nouvelle récompense, un nouveau prix, le prix Benalla. Vous allez découvrir ce que c'est dans quelques instants avec André Berkov sur Sud Radio.
Ici Sud Radio. Français parlent aux Français. Je n'aime pas la blanquette de veau. Je n'aime pas la blanquette de veau.
Sud Radio, Berkov dans tous ses états.
Eh bien, on revient avec la France dans tous ses états. Et avec ce qui se passe un peu partout. Et vous verrez, les éruptions sont très fortes partout.
Sud Radio, Berkov dans tous ses états. Les perles du jour.
Benalla par-là, oh lélé, oh là là, à la Concrescia et même au Sénat.
Alors, qui est ce nouveau groupe qui va casser tout au Hit Parade? Quel est ce nouveau groupe qui est en train de faire beaucoup plus que Christine and the Queens, beaucoup plus que tout? Eh bien, ce sont les vraies voix de Sud Radio. Oui, vous avez reconnu Christophe Bordet, Philippe David, Philippe Bilger. Oui, 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 notre trio infernal. Moi aussi, d'ailleurs, Berkov, j'ai participé à cet acte. Et Céline Alonso, c'était la folie totale. Voilà. Et pourquoi on en parle? De cette chanson qui a fait d'ailleurs le tour du monde, il faut le dire. En tout cas des ondes, en tout cas des ondes. Eh bien, parce qu'il y a un prix Benalla. Imaginez-vous qu'un publicitaire de Toulon dans le Var affiche depuis plusieurs jours un panneau de 4 mètres sur 3 en bord de route, donc un message vu par des dizaines de milliers d'automobilistes. Il a mis le prix Benalla remis à Didier Andrieux, commandant de police à Toulon. Vous savez, c'est ce Didier Andrieux, commandant de police à Toulon, c'est lui qu'on avait vu sur tous les réseaux sociaux en train de frapper un certain nombre de manifestants, en train de les frapper à coups de poing. Donc, il a fait ça, cet habitant de Sifour-les-Plages, il est publicitaire, il s'appelle Michel-Ange Fleury, j'allais dire Michel-Ange, parce que j'ai pensé évidemment à qui vous savez. Eh bien, lui, il dit, Michel-Ange Fleury, il dit, voilà, j'utilise ma liberté d'expression pour m'exprimer oralement ou pas écrit, j'entends me saisir et j'ai le droit. Voilà, il a dit, voilà, moi j'estime que ce qu'a fait Didier Andrieux, c'était pas possible. Effectivement, les violences policières, comme on a dit un peu plus tôt dans l'émission, comme les violences des gilets jaunes, comme les violences de n'importe qui sont condamnables, mais encore une fois, ne pas oublier les unes au profit des autres. Et donc lui, il dit, voilà, il dit 150 euros de plus par mois par policier et nous, la matraque dans la gueule. Bon, lui, il estime que ça ne va pas du tout. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que face à ces critiques, parce que beaucoup de gens ont dit non, c'est pas possible que vous mettiez ça, que vous mettiez Benalla et Andrieux dans le même sac, c'est pas possible, c'est pas du tout la même chose, veulent-ils dire par là que Alexandre Benalla est plus coupable que Didier Andrieux ? Ça, à chacun de se faire son opinion, mais la préfecture de Var n'a pas réagi, parce qu'on voulait, on a porté plainte, etc. Et bien, qu'est-ce qu'ils disent ? Ils disent de tels messages pourraient éventuellement relever de la diffamation, mais, et un grand mais, ils sont proférés sur un support privé et le panneau se trouve sur un emplacement privé. Dès lors, difficile de matérialiser des poursuites. Alors voilà, il faut savoir, effectivement, que si vous êtes sur un terrain privé, si vous êtes sur... Vous avez le droit de mettre le panneau que vous voulez. Et oui, la vie privée et la propriété privée, ça existe encore en France. On n'est pas encore chez Pol Pot et on n'est pas encore chez Kim Jong-un. Je pense que ce n'est pas une mauvaise chose. D'ailleurs, certains, comme Solange à Toulon, a dit à Fleury, merci pour vos affiches décalées qui remettent certaines vérités à leur place. Voilà, c'est la bénélisation des esprits.
Sud Radio, Berkoff dans tous ses états.
Oui, oui, Gilbert Bécaud, très vieille chanson, tu as volé l'orange. Bon, effectivement, le couple Fillon, ils n'ont pas volé qu'une orange, hein. Apparemment, on sait ce qui s'est passé, on connaît l'histoire, on connaît l'histoire du parquet national financier, on connaît comment Fillon a perdu, effectivement, au premier tour de la présidentielle, alors que, rappelez-vous, quelques mois avant, 2017 déjà, on pensait que la présidente de la République n'allait pas lui échapper. Il s'est passé les emplois fictifs, les costumes, Pénélope Fillon, les piges dans la Revue des Deux Mondes, etc., etc. Et bien, voilà-t-il pas, que le même parquet national financier requiert le renvoi de François Fillon et de son épouse devant le tribunal correctionnel. Et on dit que le juge va suivre ses réquisitions, donc le feuilleton Fillon continue. Même si Fillon est hors politique, il a complètement abandonné, il est dans le privé, etc. Alors, qu'est-ce qu'il faut dire là-dessus ? Écoutez, on ne va pas nous dire que la justice n'a pas à suivre son cours. Mais, encore une fois, je suis simplement frappé par le fait que, bon, je crois que Fillon a payé assez fortement le fait de ce qu'il a fait ou n'a pas fait. D'ailleurs, encore une fois, moi, on verra que la justice aille jusqu'au bout de la chose. Mais je suis extrêmement frappé, encore une fois, je vous parle tout le temps de ça, des deux poids et deux mesures. Certaines autres personnes, hein, et on peut citer un certain nombre de parlementaires, on peut citer un certain nombre de délinquants, on peut citer un certain nombre de choses qui ont fait au moins des choses équivalentes et qui, jusqu'ici, n'ont pas été poursuivies.
Après, reconnaissez une chose, André Berkoff. On s'est inquiété, une fois l'élection présidentielle terminée, que l'affaire Fillon, qui avait chamboulé toute l'élection, n'avance plus, que la justice se mette à traîner. Là, on voit qu'elle continue à aller au bout du dossier, au moins.
Au moins,
il y a une certaine cohérence.
Oui, il y a une cohérence, mais alors il y a franchement ce que j'appellerais une myopie de focale tout à fait extraordinaire. Je remarque que M. Ferrand, on en a aussi beaucoup parlé, et puis ça a disparu, hein, Richard Ferrand. Il est où il est maintenant, et on n'en parle plus du tout. Alors, moi, encore une fois, ce qui me gêne, ce n'est pas du tout que justice doit être faite, en tous les cas, mais arrêtons cette espèce de... encore une fois, je trouve que Fillon a payé, il ne s'agit pas qu'il fasse un non-lieu, qu'on aille jusqu'au bout de la chose, mais j'aimerais encore une fois que cette justice s'applique à tout le monde, qu'il soit de droite, de gauche, d'en haut, d'en bas, des oubliés, ou au pouvoir, de façon égalitaire, de façon identique. Alors je sais que je suis naïf, je sais, vous savez, La Fontaine l'avait dit beaucoup mieux que moi, et bien avant moi, selon que vous soyez puissant ou misérable, les jugements de cour vous rendront blanc ou noir. Et en fait, c'est pas seulement que vous soyez puissant ou misérable, c'est que vous soyez dans les bonnes grâces du pouvoir ou dans les mauvaises grâces du pouvoir, vous soyez du bon côté ou du mauvais côté du manche. Voilà. Et ben j'espère qu'un jour ça changera, mais ne rêvons pas trop.
Sud Radio, Berkov dans tous ses états.
Je fais rien que des bêtises quand t'es pas là. J'ai tout démonté le bahut.
Et oui, il y en a comme Sabine Maturel qui ont tout démonté le bahut, mais le bahut étant le collège, le lycée, etc. Et on sait très bien le nombre d'enfants. D'adolescents, etc., qui font que énormément de professeurs dans un certain nombre de zones vont matin au boulot, la boule au ventre, ou alors qu'ils s'inclinent, ou alors qu'ils se soumettent, ou alors qu'ils laissent faire, ou alors etc., etc. Et je vois que quand le ministre de l'Éducation, à qui je dis bravo là, et il dit, écoutez, c'est très simple, comme nous l'avons privé d'allocation les parents complices d'une évolution violente de l'enfant, eh bien c'est ce qu'a suggéré le ministre de l'Éducation. Il dit, voilà, il y a une question de responsabilisation, si les parents laissent faire complètement les enfants, leurs enfants, et on sait très bien, et on en a parlé 400 000 fois, et il y a eu des livres là-dessus, et des confessions, etc., rien n'a changé, il y a aujourd'hui des gens qui peuvent insulter, cracher, même agresser, etc., sous prétexte qu'ils sont jeunes, eh bien voilà, on fait des choses, on les réintègre, et puis les parents ne sont pas touchés. Et il y a une question de responsabilisation, et lorsqu'il est extraordinaire, c'est des députés LREM, comme Aurélien Taché, disent « Ah non, non, c'est lamentable, on ne peut pas, une famille dépassée par un adolescent violent pourra mieux y faire, c'est pas possible de les priver, d'ajouter de la misère à la misère, dit l'autre, etc. » Alors qu'est-ce qu'on fait ? Rien. On fait rien. Pour ces députés LREM, La République En Marche doit s'arrêter sur le seuil de la responsabilisation des parents et surtout ne rien faire. Qu'est-ce que c'est beau. C'est beau comme de l'électoralisme.
Bon, après, André Berkov, hein. On va reconnaître quand même que cette idée, elle vient d'un gouvernement qui est soutenu par le même parti, La République En Marche. On verra bien qui a le dernier mot.
On verra bien. Mais enfin, je veux dire que Jean-Michel Blanquer, franchement, en tout cas pour moi, applique quelque chose qui me paraît extrêmement raisonnable. Vous savez, le problème est là. La liberté n'est rien sans la responsabilité. Les droits ne sont rien sans les devoirs. On marche sur deux jambes et franchement, je félicite Jean-Michel Blanquer d'avoir, pour une fois, pas cédé à la démagogie la plus lâche.
Allez, restez avec nous sur Sud Radio. Dans quelques instants, après l'éducation, on va parler de la politique économique d'Emmanuel Macron avec l'invité d'André Berkov. Dans quelques instants, on accueille l'économiste Charles Gave. À tout de suite sur Sud Radio.
Ici Sud Radio. Les Français parlent aux Français. Les carottes sont cuites. Les carottes sont cuites.
Sud Radio, Berkov dans tous ses états.
Eh bien, la France dans tous ses états, je le dis et je le répète. Et qu'est-ce qui se passe ? Alors, c'est maladie, c'est soins palliatifs, c'est une petite poussée de fièvre qui va se résorber assez vite. Après tout, 2 mois dans l'histoire, qu'est-ce que c'est ? C'est une jaunisse. Eh bien, on va en parler avec quelqu'un qui est très habilité du point de vue médical.
Sud Radio, Berkov dans tous ses états. Le face-à-face.
Et tout de suite, André Berkov, on accueille votre invité, l'économiste Charles Gave.
Charles Gave, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes économiste, vous partagez entre Paris et Hong Kong, et vous observez, et je dois dire avec beaucoup d'alacrité et beaucoup de lucidité, ce qui se passe dans notre cher et doux pays, et pas seulement là, bien sûr, par rapport aux plaques tectoniques qui bougent beaucoup dans ce monde. Alors, où en est, docteur, par rapport à aujourd'hui, après 2 mois de gilets jaunes, après les déclarations des uns, les déclarations des autres, et cette fameuse lettre aux Français que vient d'envoyer notre président bien-aimé ?
Mais je crois, si vous voulez, je vais essayer de revenir à l'essentiel, c'est que je vais dû dire ici, ou si je ne l'ai pas dit, c'était un oubli, que dans le fond, le monde était en politique, était en train de se scinder partout entre ceux qui sont bien là où ils sont nés et ceux qui sont bien partout. C'était les...
Les somewhere et les... les anywhere et les somewhere.
Les somewhere. Donc, c'est si ça. Vous voulez, aujourd'hui, on a une révolte des somewhere. Parce que quand même, quand on regarde un petit peu ce qui se passe, la quasi-totalité des impôts prélevés, c'est plutôt sur eux. Et la quasi-totalité des subventions va plutôt aux gens qui sont proches des grandes métropoles et qui servent de domestiques aux bobos, si j'ose dire. On les appelle les immigrés, mais enfin, c'est les... Il faut donc, si vous voulez, les...
Attendez, les immigrés et bobos, c'est pas la même chose.
Non, non, mais les immigrés sont au centre, les bobos sont à la périphérie et servent de domestiques aux immigrés.
Aux immigrés, d'accord.
Donc, c'est l'analyse de Christophe Guilly, si vous voulez. Oui. Donc, ce qui se passe, c'est qu'on fait plein d'investissements pour les transports en commun. Tout ça pour que les bobos aient leurs domestiques pas chers et qu'il n'y a plus aucun investissement qui se passe chez ceux qui payent les impôts. Alors, comme leur seule façon de se transporter, c'était la bagnole. Si vous faites monter le prix de l'essence, vous faites monter de façon extraordinaire le prix du transport pour les gars qui sont à la périphérie, de façon à financer les domestiques des bobos. On comprend que les gens soient fâchés, quoi, ça me paraît évident.
Pareil, au provoquer, c'est ça. En fait, il y a une redistribution de l'impôt, et puis on va parler de l'État aussi, qui consiste à dire, voilà, nous sommes les privilégiés des métropoles mondialisées, les bobos et puis le clergé et la noblesse, on connaît. Et puis vous autres, les gueux, débrouillez-vous. Quoi.
Débrouillez-vous. Et puis en plus, si vous voulez, on augmente les impôts sur vous.
Oui, c'est ça. On va vous tondre encore plus que d'habitude pour que vous Oui, mais on sent très très bien les limites de la manœuvre, puisqu'il y a un peu partout en Europe et ailleurs des réactions quand même assez fortes, y compris sur le plan électoral. Comment vous expliquez qu'en France, il a fallu attendre là et des espèces d'éruptions comme ça avec les gilets jaunes pour s'apercevoir de cette année des choses qui durait quand même depuis des décennies?
Ben, je crois que c'est qu'on est arrivé à un moment où littéralement, il n'y avait plus d'autre solution que la révolte. C'est-à-dire que si vous gagnez 1400 euros par mois et qu'il vous reste 100 euros pour vous amuser, pour aller au match de rugby, etc., et que vous les piquez pour une augmentation du prix de l'essence, vous n'avez plus rien. Alors pour les hommes, ce n'est pas grave, ils ne vont pas au match de rugby, mais pour les femmes qui servent de leur voiture pour aller voir leur vieille mère qui a la maladie d'Alzheimer, etc., c'est un coup à vous devenir enragé. Donc ce que j'essaye de dire, c'est qu'on a essayé de transformer ce peuple de la périphérie en serfs, c'est-à-dire en gens qui ne peuvent plus bouger. Ah on les ramène au servage.
On restait chez vous, ne bougez plus.
Mais c'est impossible, parce que la seule façon dont ils peuvent survivre, c'est de bouger, pour aller trouver un boulot à 40 km, à 50 km. Donc, on les a amenés à une solution, dans une situation où ils ne peuvent pas ne pas se révolter. Puisqu'ils ont atteint maintenant le niveau où c'est l'appauvrissement absolu, quoi. Ils ne peuvent plus bouger. Et donc, c'était totalement visible depuis des mois. Et ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est que ce gouvernement est complètement sourd. Parce qu'il y avait déjà eu un début de révolte avec les 80 km/h, qui était une atteinte à ces gars-là.
Oui, ça aurait dû quand même servir de signal d'alarme.
Hein, ils avaient commencé à tirer la sonnette, les gars.
Oui. Et alors, comment vous expliquez, justement, parce que ce ne sont pas tous, on ne va pas être méchants, ce ne sont pas tous des mononeurones, ce ne sont pas tous des gens complètement diminués.
Gens au gouvernement ?
Oui.
Non, mais ce sont des gens, si vous voulez, autrefois... Le personnel politique représentait assez bien la région dont ils étaient issus. Aujourd'hui, c'est plus du tout le cas, si vous voulez. J'imagine que le président de la République n'a jamais été dans l'Ariège, en Gascogne, dans les endroits où la main de l'homme n'a jamais mis le pied, si vous voulez. C'est effrayant.
Ou alors dans un 5 étoiles gastronomique.
Il prenait l'avion, il revenait pas au privé, il revenait le soir. Ouais. Donc, si vous voulez, ces gens-là n'ont aucun contact avec la France profonde. Ils savent pas ce que c'est. Ils connaissent mieux, en quelque sorte, leurs copains à Londres ou à Francfort ou à New York qu'ils ne connaissent les paysans du Gers. Ouais. Et donc, ils ont complètement perdu le contact.
Ce qui est vrai pour certains intellectuels qui disaient « je me sens beaucoup mieux à New York » ou etc. avec mes pairs, P-A-I-R-S, qu'avec la Creuse.
D'ailleurs, vous remarquez que les intellectuels français sont d'un grand silence sur les gilets jaunes.
Oui, tout à fait.
Comme le silence est assourdissant. Oui, le showbiz, tout ça, tous ces défenseurs de l'humanité, on ne les entend plus. Hein,
oui. Et là, vous expliquez ça comme même chose.
Même chose. Décoller, ils savent pas. Ils connaissent pas ces gens-là. Et puis en plus, si vous voulez, on les a caricaturés pendant 40 ans avec Cabu et son beauf.
Ouais.
Et ben, si vous voulez, c'est la révolte des beaufs.
Et Dupont-la-Joie d'Yves Boisset. Voilà. Rappelez-vous le film Dupont-la-Joie, ouais, le beauf, salaud, raciste.
Raciste, aimant les militaires,
ouais,
etc.
Ouais, ouais.
Et donc, on a méprisé ces gens-là. Et ben, au bout de 40 ans de mépris, c'est une jacquerie. Et ce qui est amusant, c'est que pour la première fois dans l'histoire, c'est une révolution de droite. C'est-à-dire que les gens ne disent pas « on veut plus de l'État », ils disent « foutez-nous la paix ». Et quand vous dites « foutez-nous la paix », vous êtes de droite. Quand vous dites « je veux plus de l'État », vous êtes de gauche.
Gauche. Ce qui est totalement d'ailleurs abscon et imbécile aujourd'hui, ça ne veut
plus rien dire.
Mais dites-moi alors justement, vous dites « jacquerie », Charles Gave, jacquerie ou ça peut aller plus loin ?
Oh ben le début de jacquerie, si vous voulez, ça peut aller plus loin, ça va aller plus loin, parce que c'est le symptôme du fait que, vous savez ce que disait Renan, c'est qu'une nation, c'est une volonté de vivre ensemble, appuyée sur un imaginaire commun. Mais aujourd'hui, la France est en train de se scinder en trois groupes. Vous avez donc les bobos au centre, leurs domestiques, les immigrés à la périphérie, et puis tout à fait là-bas au fond, personne ne regarde, les Français, si j'ose dire. Mais ces trois groupes-là ne veulent plus vivre ensemble. Ils n'ont plus aucune...
Ouais. Et donc, ils ont fait sécession, quelque part, on peut dire.
Voilà, ouais. Ils ont fait sécession. Les deux premiers groupes ont fait sécession des troisièmes, en
les
disant...
Les élites, leurs serviteurs immigrés, c'est vrai qu'on ne les a pas vus, d'ailleurs, on a vu
personne. On ne les voit pas.
On ne les voit pas. Ouais, aujourd'hui, on ne les voit pas. Non. On les a vus dans les banlieues en 95, 2005 et compagnie.
Silence radio. Pourquoi ? Parce qu'ils savent très bien que ce qui va leur arriver, c'est qu'on va leur couper les subventions. Parce qu'il va falloir un jour rendre le produit de l'impôt à ceux qui le payent.
Bien sûr. Et alors, à votre avis, cette jacquerie peut se transformer, mutandis mutandis, hein, on ne va pas faire comparaison les parisons, mais peut se transformer en révolution, en tout cas en quelque chose qui prend forme.
Il va y avoir une demande très forte de changement du système politique, et cette demande très forte, elle doit être assouvie par la création du référendum d'initiative citoyenne ou populaire. Parce que ces gens en ont assez d'avoir des gens qui leur expliquent qu'ils savent mieux qu'eux et qui gèrent en fonction des intérêts des bobos, mais pas du tout en fonction des intérêts de la France. Donc il va y avoir une révolte, parce qu'ils représentent quand même une bonne moitié de la population française.
C'est clair, plus que la moitié aujourd'hui.
Plus que la moitié. Donc on a un vrai problème, et ce problème va être aggravé, parce que d'après tout ce que je peux... Vous savez, mon métier, c'est d'essayer de comprendre ce qui se passe. Or, la France est en train de rentrer en récession.
Ah oui, vraiment.
On va avoir une récession très solide en 2019. À ce moment-là, ça veut dire que le déficit budgétaire va exploser, que la dette va exploser, que les dépenses sociales vont exploser et que la France va se retrouver dans une situation vis-à-vis de l'Europe, dans une situation absolument impossible. Donc, le gouvernement va se retrouver dans une situation complètement cataclysmique.
Ah oui, vous l'avez pris en tenaille entre certaines révoltes populaires et la
et l'écroulement de toute une partie de l'économie.
Vous allez jusqu'à écroulement, vous.
C'est-à-dire que vous voyez en ce moment, d'abord l'Angleterre va sortir de je ne sais pas dans quel état, etc., mais de l'Europe. Or, l'Angleterre a un énorme déficit commercial avec nous, y compris avec la France, donc ça risque de disparaître avec le temps. Et puis ensuite, l'Allemagne, qui a mis toutes ses billes sur la bagnole, est en train de rentrer en récession. L'Italie est en train de rentrer en récession. La France est en train de rentrer en récession. Et il n'y a plus aucun moyen de lutter contre ces récessions à cause de cette imbécilité de l'euro.
Donc, oui, qui bloque tout. On ne peut pas jouer sur la monnaie.
On ne peut plus jouer sur la monnaie. On a baissé les taux d'intérêt d'un niveau débile. Donc on est maintenant... On va se retrouver dans une récession qui va être très difficile.
Mais on ne peut pas y avoir un sursaut des banques centrales européennes.
Qu'est-ce qu'elles peuvent faire ? Elles ont déjà mis les taux d'intérêt à zéro, ce qui ruine les pauvres petits épargnants. Regardez le livret d'épargne populaire, le livret A, etc. Donc, ils ont déjà ruiné tous les épargnants pour essayer de maintenir la structure étatique en forme, en mettant des taux d'intérêt à zéro, plus personne n'est rémunéré sur son épargne. Qu'est-ce que je voulais vous dire ? Ils ont tout utilisé, il n'y a plus rien dans le carquois.
Mais est-ce que ça ne veut pas dire, Charles Gave, en fait, ce que vous dites là, en vous écoutant, docteur Gave, est-ce que ça ne veut pas dire quand même que, encore une fois, alors que Macron promettait le contraire, les politiques, depuis d'ailleurs, ce n'est pas nouveau, cèdent complètement aux financiers ?
Ce n'est pas qu'ils cèdent aux financiers, si vous voulez, c'est que grosso modo...
Il n'y a
pas de volonté politique. Le seul problème de la France, c'est l'obésité de l'État. Donc la seule chose que M. Macron devait faire en arrivant, c'est faire un grand audit des dépenses étatiques
Parce que 57% du PIB.
57% du PIB, ce qui est monstrueux, et on ne me fera pas croire qu'on ne peut pas économiser quelques dizaines ou trentaines de milliards d'euros sur des gens qui touchent des choses auxquelles ils n'ont pas droit, si j'ose dire, simplement parce qu'ils sont près du pouvoir. Ouais. Et donc il aurait fallu faire baisser les dépenses de l'État et baisser les impôts de façon concomitante pour les gens à la périphérie. Et à ce moment-là, ça aurait marché très bien. Mais ils ont fait le contraire. Pour préserver les intérêts de classe qui sont au centre, ils augmentent les impôts sur la périphérie. Ben ça, c'est ce qu'ils font depuis 40 ans. Et on arrive à la fin de ce système-là. Ça ne peut pas marcher. Monsieur Macron, inspecteur des finances, fait la même politique que Juppé, fait l'inspecteur des finances. Ils sont tous pareils. La seule façon de s'en sortir, c'est d'augmenter les impôts sur les petites gens.
Donc, M. Macron, entre autres, a ressuscité la lutte des classes, quelque part.
Il a ressuscité, oui, mais c'est une lutte des classes très curieuse, parce que c'est une lutte des classes d'une noblesse étatique contre les gueux, si j'ose dire.
Ouais, ouais, ouais,
c'est pas des gens qui prennent des risques. La lutte des classes, c'était, d'après Marx, la lutte des entrepreneurs contre les travailleurs. Là, c'est pas du tout ça. C'est la lutte de ceux qui profitent de l'État contre ceux qu'ils nourrissent.
La lutte des rentiers étatiques, on peut
dire. La lutte des rentiers étatiques, c'est-à-dire que tout a été fait pour préserver les rentiers étatiques.
C'est ça.
Depuis 40 ans.
C'est ce capitalisme de connivence dont vous avez parlé, d'ailleurs.
Absolument.
Et autres. Non, c'est absolument... Et alors, dites-moi, juste, en sortir, il n'y a rien à faire, il faut continuer à regarder voguer le Titanic vers l'iceberg.
Ben, en sortir, si vous voulez, la seule façon d'en sortir, en tant qu'économiste, c'est assez simple, c'est de revenir à la liberté des prix, à ce qu'il y ait des prix de marché. Or, il n'y a plus de prix de marché nulle part. Donc, vous avez des fausses valeurs qui ont été créées partout. Et ça veut dire qu'il va y avoir des tas de gens qui vont perdre énormément d'argent au moment où les vraies valeurs vont venir dans le système. Ce n'est pas possible autrement. Donc, vous ne pouvez pas faire marcher l'Union soviétique. On a recréé l'Union soviétique en France. Ces crétins technocrates français ont cru que l'Union soviétique s'était plantée, non pas parce que c'était la technocratie, mais parce qu'ils avaient des mauvais technocrates. Et que comme eux, ils étaient des bons technocrates, ils allaient réussir. Mais ça ne marche pas, ça. La technocratie ne marche jamais.
Et donc, juste un mot, on arrive presque, vous aviez parlé l'autre fois ici même avec moi, Charles Gave, du Bruxit. Plus que jamais, Bruxit, faut sortir.
Mais il faut sortir Bruxelles de l'Europe.
Eh bien, on vous écoute.
Merci à vous, Charles Gave. Merci à vous également, André Berkoff. On vous retrouve demain à midi en direct de midi à 13h sur Sud Radio dans tous vos états. Pour tous ceux qui veulent réécouter cette émission, c'est en podcast sur sudradio.fr. À suivre, Les Clés d'une Vie avec Jacques Pessis qui aujourd'hui reçoit sur Sud Radio l'humoriste Pierre Palmade. Excellente journée à vous tous.